Genèveactive.ch.
Une chorégraphie qui s'inspire de Kolerétan de Peter Sloterdijk. Kolerétan que l'on retrouve présenté lors d'un débat avec trois interprètes torse dénudé, où l'on parle justement de la couverture, du code-barre, du lettrage. Néanmoins, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cet auteur Peter Sloterdijk, spécifiquement pour cette création I Feel?
J'ai retenu surtout le problème de s'éloigner un peu d'un système matérialiste, avec le mal que vivent aussi les gens que Sloterdijk décrit. Donc en fait, en soi, la création n'a pas permis à la compagnie de dépasser ce stade-là. On s'est plutôt retrouvé vers la fin de la création, coincé exactement dans la problématique que Sloterdijk évoque.
Problématique que Sloterdijk évoque, vous allez nous en dire quelques mots, parce que je crois qu'il a conçu en partie cet ouvrage comme un dialogue et non pas une réponse à la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, historien américain qui a été agrégé avec les néoconservateurs un peu rapidement.
Ce que j'observe en ce moment, c'est que dans des domaines qui auparavant n'étaient pas forcément moralisés, ces domaines-là se moralisent de plus en plus, ce qui empêche un peu la pensée de garder certaines portes ouvertes. Et effectivement, comme dit Sloterdijk, le thymos recule en faveur de l'éros, et des forces qui sont plus avides, plus matérialistes, plus égoïstes et moins fiers aussi de ses propres accomplissements, mais plutôt soucieux de leur image. Maintenant, on en parle beaucoup, je ne suis pas le premier à dire que tout est image de nos jours, les compagnies de danse incluses, donc c'est une problématique qui est vraiment actuelle. Ouais.
Cette manière peut-être de déconstruire aussi Peter Sloterdijk part peut-être de cette colère dont il parle, née selon lui de l'injustice et qui serait le moteur de l'histoire occidentale. Qu'est-ce qu'il en est justement sur cette colère dans cette pièce ?
Alors, il faut dire que Sloterdijk il décrit pas mal des situations dans lesquelles les gens sont en colère mais d'une façon très isolée. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui les représente, qui réunirait leurs forces, qui partagerait avec eux les mêmes soucis dans la vie. En partant de là, l'artiste chorégraphique dans le milieu de la danse est quelqu'un qui souvent est dû à faire de ses expressions intérieures son travail. Donc on peut carrément dire que le danseur est presque moins apte à exprimer de la colère au moment où il commence une création que quelqu'un qui subit des pressions depuis des années dans une entreprise dont il ne peut pas se libérer parce qu'il est conditionné par son travail, il en a besoin. Et je pense qu'on a presque vécu encore plus mal la problématique de Sloterdijk que des gens qui auraient des problèmes concrets et qui sont déjà allés souvent dans la rue. Les dernières revendications auxquelles moi je pense personnellement, c'était à Paris il y a 10-15 ans, sur les acédiques. Et on peut appeler ça vraiment des problèmes existentiels qui réussiraient à réunir une banque de colère autour de nous, j'en doute. La référence majeure, c'est pas tellement de reconstruire une comédie musicale ou reconstruire l'opérette de nos jours, c'était plutôt de trouver le langage chorégraphique juste au moment où il serait employé dans le spectacle. Donc en fait, c'est vraiment une recherche un peu désespérée et continuelle de retrouver une façon de travailler qui était plus apte aux Allemands dans les années 20 et dans les années 10 que de faire une déconstruction de l'opérette ou de la comédie musicale. Je suis constamment à la recherche de petits bouts de chorégraphie qui m'aideraient à reconstruire un langage de danse-théâtre en partant d'un geste très concret, très significatif, parce que j'ai beaucoup du mal à commencer une chorégraphie par l'abstraction pure. Je viens pas de là, j'ai pas été instruit à cette école-là. Donc j'ai toujours besoin d'une situation concrète par laquelle je commence et dont je vais essayer de m'abstraire de plus en plus. Mais j'ai besoin de ce point de départ. C'est pour ça que parfois les références restent plus ou moins voilées dans les pièces.
J'aimerais qu'on revienne à ce titre de phénoménologie de la perception. On n'est pas nécessairement obligé de parler de Husserl, de Hegel. On peut aussi parler de Feldenkrais, ou pas du tout d'ailleurs. Ce titre « I feel ».
Vous avez évoqué l'opérette. Il y a depuis nos parades de Rennes, la compagnie a beaucoup de mal parce qu'on a perdu vraiment pas mal de réseaux de vente à cause de ce spectacle. Et on commençait à travailler un peu plus à faire des pastiches en espérant encore de vendre les pièces. On avait moins d'idées. Moi, j'avais moins d'idées. Et à Eiffel, j'ai repris un peu plus de temps pour préparer la pièce. J'avais vraiment envie de revenir à un thème en me disant, je vais traiter ça parce que ça me tient à cœur et on verra ensuite si ça se vend ou pas. Et c'est de là qu'est né le titre Eiffel. Il y a énormément d'artistes contemporains qui ont, depuis une quinzaine d'années, disons, revisité ces personnages emblématiques, que ce soit Louis Fuller, Isadora Duncan. Moi, venant de l'Allemagne, venant de l'école de Seine, ça me semblait très ambigu. Je voyais plein d'artistes qui se penchaient sur des thématiques où l'aspect idéologique de l'époque, le contexte culturel, le contexte politique dans lequel ça avait été exécuté, leur échappait totalement. En fait, c'était une espèce de re-renaissance d'une esthétique très pure, très idyllique, sans prendre en compte que, ah, on est en 2010, est-ce qu'on a besoin de remettre sur les pieds ces vieux solos juste parce que ça fait beau? Et B, de les traiter comme si à l'époque tout allait bien. Et que c'est une valeur sûre, c'est une valeur éternelle. Or, je pense que même à l'époque, il y avait plein de discussions sur Duncan, sur Fuller, sur Monteverita. Autant que je suis un inconditionnel de la Folgemannschule, de la démarche de Laban, il y a eu quand même pas mal de critiques, plus ou moins fondées sur sa position politique. On peut, quand on voit les vidéos de Monteverita, se demander quelle part de naïveté il y avait là-dedans et quelle part d'inconscience aussi, et quelle part de participation à un mouvement naturel, idyllique, même des national-socialistes y prenaient part. Donc je pense que c'est important, dans cette dernière scène, de montrer que, oui, il y a des mouvements qui rappellent cette époque naïve, mais en même temps, il y a une espèce de jetée de rochers dans lesquels les gens se placent, un peu comme s'ils étaient à la plage pour la dernière heure de fête avant que le soleil se lève. Et cette façon un peu désincarnée de traduire les voiles de Isadora Duncan, de Louis Fuller, en bâche plastique, me semblait la façon la plus juste. Sachant aussi que ça relie un peu le livre, hein. Sloterdijk, à la fin du livre, il a beaucoup du mal à trouver une issue pour le futur du problème qu'il évoque. Et nous, on voulait juste dire, bon, c'est à peu près là où nous en sommes aussi. On ne sait pas trop où ça va aller. Donc les gens espèrent de retrouver une clairière sans savoir si vraiment ça va s'effectuer ou pas. Le duo féminin est fortement inspiré du Crazy Horse. Le fait que cette scène cohabite avec la construction du mur et la disparition du musicien me semble important dans la mesure où on passe d'un cadre un peu de cabaret avec des musiciens sur scène, les deux danseuses à l'avant-scène, à un cadre d'architecture de plus en plus épuré. Les filles, elles perdent de plus en plus de coussins et elles ont de plus en plus du mal à exécuter leur duo. Le mur se construit qui les coupe aussi des musiciens et on se retrouve dans une scène où les filles n'ont plus les moyens minimales pour exécuter leur scène. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'à la fin, elles quittent la scène et tout ce qui reste de la scène, c'est la construction du mur qui n'est pas achevée. Hein. J'ai rencontré des gens formidables dans le burlesque et j'ai beaucoup du mal en ce moment à voir plein de compagnies qui se penchent dessus, alors que vraiment, il y a à peine peut-être une vingtaine de filles américaines qui sont vraiment dans l'esprit de ça. Et il y en a par contre des centaines qui sont en train de revisiter ça. On m'a même dit des filles relativement inconnues américaines qui ont des à Naples l'année dernière, ils me disaient qu'elles avaient vu les numéros de Tita Fan Tease et qu'en fait, trois quarts de ces numéros sont volés parce qu'elle a réussi à commercialiser ce genre de numéros. Quand on prend le burlesque à la base, on oublie relativement vite le côté érotique ou sexuel de la chose parce que c'est des numéros qui sont carrément magiques par leur humour et sont d'ailleurs relativement uniques dans leur genre. Il s'agit pas de faire un striptease avec un objet en plus, c'est des gens qui font des choses relativement dingues auxquels on penserait jamais. Mais la machine culturelle est en train de broyer tous ces numéros-là. Donc on avait envie un peu de mettre ça en scène en disant que ça s'est désenchanterait relativement vite.
Mais tout de même, cette reviviscence qui se trouve, et je trouve qu'il y a deux exemples extrêmement pertinents, il y a le vôtre et puis celui de Zelda Zong de Maud Liardon, où effectivement elle est partie notamment de représentations iconiques, iconographiques de Sid Charisse, et puis cette manière demi-profil dans certaines comédies musicales. Il y a aussi bon les ballets aquatiques d'Esther Williams, mais disons par rapport à ça, c'est vrai qu'on appellerait ça aujourd'hui du voguing. C'est-à-dire que c'est une suite d'images, c'est un petit peu ce que vous proposez, vous, c'est-à-dire que c'est une suite de positions.
Oui, c'est plutôt une suite de postures parce que, en fait, l'objet que nous, on utiliserait pour créer le burlesque, c'est les coussins. Et les coussins sont, au fur et à mesure de la chorégraphie, jetés par derrière. Donc, les filles, à la fin, se retrouvant sans moyens, elles sont obligées à quitter le plateau. Et les coussins, en fait, qui auraient servi au burlesque, désormais, ne servent plus qu'à construire un mur.
Un solo masculin, une personne qui tournoie sur elle-même. Qu'est-ce qu'il en est justement, ce solo assez hypnotique?
C'est le seul moment où un de mes danseurs essaye de posséder les coussins par-dessus, par le gros bloc. Parce que l'autre moment où il monte sur des coussins singuliers, où il met ensuite un deuxième coussin, il perd l'équilibre. Le seul moyen, c'est de réussir à mettre une seule personne sur l'ensemble des coussins, qui représente quelque chose de molle. En fait, Sloterdijk, il parle du milieu de la société qui est totalement molle et gris, et dépourvu de toute fierté de ses accomplissements. C'est pas pour rien que pendant que le danseur bouge en essayant de recréer des mouvements héroïques, et soviétiques et autres, on entend le bruit de ses pas parce que la mollesse du coussin. En fait, le danseur Sébastien qui monte dessus pour faire son solo héroïque, petit à petit, est pris par la mollesse, le carré commence à se déconstruire et ses copains, serveurs et servants, ils font une dernière tentative de re-rassembler le carré qui tient de moins en moins bien. C'est pour ça qu'à la fin, ils abandonnent. En fait, c'est comme si l'âme de la mollesse s'extirpait du carré et disparaissait dans l'air. Et à la suite de ça, ils passent à Star Wars, ils commencent à décomposer le carré, croyant de pouvoir se servir de cette mollesse comme une arme. Et bien entendu, ça ne marchera jamais.
On sait que les scènes, comme par exemple le sujet à vif en Avignon, sont littéralement colonisées par ces objets tutélaires luminescents que sont les projecteurs asservis par ordinateur. On les voit partout maintenant sur les plateaux de télévision. Enfin, c'est un objet qui est à la fois celui de la société du spectacle.
C'est assez étonnant que ce petit projecteur qui est très utilisé dans les concerts pop et rock, on en a acheté un seul parce qu'on avait envie d'avoir une espèce de copain pour les servants, ayant d'un côté l'équipe de ses servants sans véritable personnage de maître, mais au maître dans la pièce il y a quand même les coussins, il n'y avait aucun espace entre les deux. Et on se demandait si la lumière à travers ce réflecteur qui peut faire des mouvements, qui peut répondre oui et non et qui peut bouger, qui s'exprime un peu, pouvait côtoyer le groupe de servants au moment où ils en auraient peut-être besoin. Et c'est pour ça que Jean-Paul, d'ailleurs, à un moment, essaie de lui parler. Sauf que c'est quand même un assistant qui reste relativement discret et qui veut pas rentrer dans la problématique du livre. Et donc, il va rester relativement neutre face aux sollicitations de Jean-Paul.
Comment vous construisez?
À dire la vérité, ça se rapproche beaucoup de la façon comment mon caractère, je crois, est construit. Parce que je me prends par passion pour beaucoup de choses et après, je suis repris par une espèce de jugement que tout ça n'est franchement pas si important que ça. C'est pas du cynisme où j'aurais envie de casser des concentrations que les gens mettent dans les scènes ou des espoirs qu'ils mettent pour la suite. C'est plutôt par moment de remettre l'horloge à zéro en leur disant écoutez, on fait ça, ça ne reste qu'un spectacle, on ne peut que par petites doses donner des petites émotions, surtout de nos jours dans les spectacles vivants. Les gens, ils sortent de la télé pour aller voir une pièce, après ils vont boire un coup, après ils reviennent chez eux pour continuer à regarder la télé. Cet effet du spectacle comme objet contemplatif est beaucoup moindre qu'auparavant. Donc, j'ai pas envie d'avoir la prétention de donner plus que ça. J'aurais beaucoup du mal à assumer des spectacles de nos jours faits par des gens qui font 6 heures de théâtre avec des interprètes qui cassent les murs du théâtre pour provoquer je sais pas quelle pensée. On est à mot dépassé par ce qui se passe sur YouTube. Si dans les spectacles vivants, on reste pas un peu vigilant à comment en fait le cerveau du public fonctionne, on s'en sortirait pas. Ou sinon, on deviendrait faussement naïf ou faussement romantique, on serait totalement dépassé par les événements. Et surtout, si on travaille sur un livre qui parle d'actualité, il faut vraiment qu'on soit lucide là-dessus.
Manière aussi de tourner autour des choses, une scène particulièrement, pour moi, emblématique et magnifique de ce spectacle, c'est cette séquence donc, où un trio fait le commentaire de notamment la couverture du livre de Sloterdijk.
Alors déjà, mes danseurs n'étaient pas contents de la traduction française. Ensuite, on s'est penché aussi sur le fait que tout le look du livre était différent. Et on s'est dit, est-ce que la théorie de Sloterdijk sur l'érotisation de la société se laisse appliquer aussi dans le moindre détail? Est-ce qu'on peut parler du fait que le livre a une épaisseur différente, une typo différente, et donc elle va peut-être s'adresser à d'autres gens qui auront un autre sentiment voyant la pochette? C'était une façon de concrétiser la pensée de Sloterdijk en disant, si les gens de nos jours, il est décrit étant devenus très attirés par l'image et moins par la pensée, qui sont moins intéressés à accomplir des choses, mais plus à prétendre qu'ils sont ça et ça et ça, est-ce que ça se laisse appliquer au livre? C'était vraiment pas une façon de dire, en fait, le contenu ne nous intéresse pas, on va faire un gag autour de la pochette. C'était plutôt de dire, bah, on va jusqu'au code barre pour voir s'il y a un lien direct avec ce qu'ensuite on va lire dans le livre. Genève Active.ch